Chers amis, chers collègues, merci d'avoir répondu à cet appel et d'être ici aujourd'hui. Mes collègues de l'Université de Bourgogne et moi-même sommes très contents et très fiers, si j'ose dire, de vous avoir ici, d'autant plus, n'est-ce pas, que dans l'Assemblée, nous avons la chance d'avoir non seulement quelques chercheurs reconnus et chevronnés, mais aussi des gens qui nous viennent d'autres disciplines et, à mes yeux, cerise sur le gâteau, quelques doctorants et même des étudiants d'ailleurs, mais surtout quelques doctorants qui sont venus pour nous présenter leurs travaux et ma foi, je me suis aperçu que finalement j'étais aussi désormais devenu, avec les gens de ma génération, un senior qui offrait aux jeunes la possibilité de venir présenter leurs recherches, ce qui, ma foi, est particulièrement plaisant. Pourquoi un colloque sur les écoles de pensée? Bon, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que la question a été relativement peu traitée, du moins si j'en crois ce qui se passe dans ma discipline, la sociologie. Alors évidemment, il y a bien les travaux, par exemple, de Jean-Louis Fabiani, ou encore de Christian Topalov, ici présent, ou encore de Jean-Michel Chapouli, mais qui ont largement contribué à défricher un peu la question. Mais à ma connaissance, ça n'a été jamais fait de façon approfondie, élargie et quelque peu systématique. C'est donc, si vous voulez, dans la perspective de cet élargissement que ce colloque a été conçu. Alors, en trois points, si vous voulez, pour argumenter cette idée. Premièrement, évidemment, la question se pose d'abord d'essayer de comprendre à quelles conditions ou selon quels mécanismes sociaux un collectif de savants forme ou ne forme pas ce qu'on peut appeler une école. En somme, évidemment, on peut se poser la question de savoir quelles sont les conditions sociales, si je puis dire, qui fonctionnent comme principe d'unité pour former une école. Ah, évidemment, derrière cette question s'en profilent bien d'autres, parmi lesquelles, par exemple, la question de savoir comment circulent, comment évoluent les concepts et les théories, comment se forment, se revendiquent, se font, se défont, ce qu'on pourrait appeler les filiations intellectuelles, ou encore, pour finir, comment se structure à travers les écoles, comment fonctionne ce qu'on pourrait appeler un champ disciplinaire. Bref, ce genre de questionnement renvoie globalement, pourrait-on dire, à des interrogations sur l'histoire et le fonctionnement des disciplines. Mais, deuxième point, la notion d'école, me semble-t-il, soulève aussi un autre problème, qui est, somme toute, celui qui consiste à savoir ce qu'on fait quand on baptise, à tort ou à raison, sur le moment ou a posteriori, un collectif en lui donnant le nom d'école. Autrement dit, si vous voulez, bien sûr, se profile la question, par exemple, des stratégies intellectuelles. Mais je me suis dit aussi que peut-être on pouvait raisonner en termes de travail performatif, si j'ose dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand Bloomer décide dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, que l'école de Chicago est une école, on en parlera, j'imagine, plus complètement, qu'est-ce que ça fait sur le réel, si vous voulez ? Ou est-ce que ça a des conséquences sur la réalité de la discipline ? Ou bien, la présence d'autres éminents collègues m'a fait venir en tête cette question, on peut se demander, par exemple, quelles conséquences ça a sur la discipline quand des enseignants mettent en scène, dans leurs cours ou dans leurs discours, une supposée rivalité entre Boudon et Bourdieu, par exemple, en supposant que derrière, éventuellement, il y a des écoles, des stratégies, etc. Bref, si vous voulez, je me demande, ou on peut se demander, ce que ça provoque, finalement, quand on décrète qu'il existe des écoles. Enfin, dernier point, il nous a semblé qu'on pouvait élargir encore un petit peu plus la perspective et regarder ce qu'on entend par école en faisant des comparaisons entre différentes disciplines, afin évidemment de pointer éventuellement non seulement des différences, mais si possible des régularités. Du coup, nous avons la chance d'avoir ici présents des historiens, des politistes, un juriste, qui j'espère nous apporteront des lumières sur la question, et je pense aussi éventuellement à la table ronde qui aura lieu sur les revues et la réflexion à partir des revues sur ce que c'est qu'une école. Me venait à l'esprit en écrivant ce texte, par exemple, la revue Genèse, qui, me semble-t-il, présente un certain nombre de régularités ou, faute de mieux, ce que je pourrais appeler une patte ou un certain savoir-faire, n'est-ce pas, qu'on pourrait associer à la revue en question. Quelques mots pour terminer sur l'histoire et l'origine de Scholloch, n'est-ce pas. Alors évidemment, la question des filiations intellectuelles dans mes travaux anciens m'avait toujours intéressé, notamment quand j'essayais de voir ce qu'étaient devenus les Durkheimiens après la mort de Durkheim. Et je me rappelle que Philippe Masson, notre collègue, avait fait une recension de mon livre qui était plutôt élogieuse, mais il avait terminé en disant « Oui, mais Jean-Christophe Marcel, en fait, il ne réfléchit pas sur ce que c'est qu'une école. » Et ce truc-là m'était resté dans la tête, je m'étais dit « Oui, effectivement, il a quand même raison. » Et il se trouve qu'il y a un an et quelques mois, avec mes amis et collègues du GT49 de l'Association française de sociologie, du moins c'est comme ça que je l'ai pris, à moitié sur le ton de la plaisanterie, mes collègues me disent « Dis donc Jean-Christophe, qu'est-ce que tu pourrais faire pour marquer ton arrivée à Dijon ?» Dis « Bah, réfléchissons sur la notion d'école. » Et puis, si vous voulez, me prenant au jeu et à vrai dire n'y croyant pas trop, j'ai donc proposé cette manifestation ici aux autorités compétentes, si j'ose dire, et je dois dire que nous sommes royalement accueillis. J'espère que vous pourrez le constater pour la suite de l'événement, ce qui est pour moi une occasion évidemment de remercier chaleureusement tous ceux qui ici ont permis que ce colloque soit possible, à savoir évidemment mon laboratoire de recherche, mais aussi l'UFR de sciences humaines, la société, la SFHSH, n'est-ce pas, française d'histoire des sciences de l'homme, et j'en oublie peut-être, bon, je dois avoir fini à peu près. Vous avez pu constater aussi à quel point nous avons avec nous des gens d'une efficacité redoutable. Vous avez pu tester l'efficacité de David au passage. Et je voulais remercier non seulement David, mais aussi Gaël et Sylvie qui sont là pour nous aider à faire en sorte que cette manifestation soit la meilleure possible. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon colloque et puis commençons à discuter. Merci.